Session de rentrée par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 9 septembre 1995, deuxième conférence.
Il y a une petite question. Qu'est-ce que c'est que le concret dans une philosophie réaliste? Ce que nous touchons. Vous ne touchez que du concret. N'ai jamais touché de l'abstrait. Le concret, c'est ce qui existe. Tout ce qui existe, existe d'une manière individuelle, concrètement. Mais, c'est vrai, un caillou, c'est du concret. Quand je mange, c'est du concret. Quand je serre la main, je donne la collade à mon frère, c'est du concret. Quand je travaille, c'est du concret. Quand vous commencez à cogiter, et que ça commence à chauffer, alors ça peut partir vers l'imaginaire. Éveillé. Quand vous avez des distractions pendant le cours, quand vous prenez des notes, c'est du concret. La signification peut être abstraite, mais votre acte est concret. Il a un résultat concret, individuel. Puis vous pouvez tout d'un coup partir en voyage. Le pigeon qui part. Et puis, vous pouvez réfléchir. Prier, c'est du concret. Adorer, c'est du concret. Adorer Dieu. Contempler, c'est un acte concret, vital, qui atteint l'absolu. Le seul absolu concret, c'est Dieu. Philosophiquement parlant, vous ne touchez pas directement. Et ça, c'est très important. La philosophie regarde l'homme, la foi regarde Dieu. Le croyant de foi surnaturelle est tout de suite orienté vers Dieu. C'est Malebranche qui a confondu les deux et qui dit qu'on voit tout en Dieu. Il a bien de la chance. Quand je vois Dieu. Je n'ai pas ce privilège. Quand je vous regarde dans l'ordre surnaturel, je vous aime dans le Christ. Mais je ne dis pas que je vois Dieu. Je ne dis pas que j'expérimente Dieu. Mais je peux expérimenter surnaturellement, dans la charité fraternelle, la présence du Christ. Ça, c'est surnaturel. Il faut donc arriver à discerner en nous ce qui est immédiatement surnaturel et ce qui relève de notre connaissance humaine d'un très bon discernement. Je me rappelle la seule audience que j'ai connu avec Paul VI, c'était avec un petit groupe de théologiens. C'était deux philosophes et tout le reste était des théologiens. Il y en avait cette petite réunion à Rome, il y en a pu avoir une petite audience. On était une trentaine. Et Paul VI a dit avec beaucoup d'insistance, la plus grande erreur et la plus terrible des erreurs dans l'Église catholique actuellement, c'est le fidéisme. Le fidéisme, voyez bien, Luther. Je ne connais rien sans la foi. Évidemment, je peux employer la parole de Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, je ne connais rien sans connaître le Christ. C'est donc reconnaître implicitement que mon intelligence, à cause des conséquences du péché, est incapable d'atteindre la vérité. Alors il y a cette autre affirmation que donne l'Église. La grâce présuppose la nature. La foi présuppose l'intelligence. Et donc quand Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », comprenons bien ce que ça veut dire. Sans moi, vous ne pouvez absolument pas mériter la vision béatifique. Sans moi, vous ne pouvez pas avoir comme finalité la vision béatifique. Mais Jésus ne veut pas dire que sans lui, nous ne pouvons pas avancer. C'est vrai que Jésus nous aide pour tout. Mais Jésus ne veut pas que nous devenions paresseux. La foi ne doit pas encourager la paresse. Or, on peut très bien dire, sans moi, vous ne pouvez rien. Donc, si Jésus est là, tout ce que je fais est bon. Si je pêche, c'est parce que Jésus n'est pas là. Donc, ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute de Jésus. J'ai déjà entendu ce raisonnement-là. De personnes très pieuses. Alors, on se décharge sur Jésus. C'est lui qui est responsable de tout. Parce que sans lui, je ne peux rien faire. Donc c'est lui qui est responsable de tout. Et il y a un peu de ça, oui, dans le fidéisme. Je ne veux pas que mon intelligence se développe. J'aime mieux rester un croyant à l'état pur. Je connaissais comme ça, à Fribourg, un médecin, très bon chrétien, qui ne pouvait pas entendre la théologie. Dès que j'entends la théologie, je dois faire des actes d'intelligence. Et j'aime pas de faire des actes d'intelligence. J'aime mieux croire. Croire. Sans rien comprendre. Je lui dis, mais quand vous faites votre médecine, vous faites quand même des actes humains. Et vous devez, autant que possible, rester dans une morale chrétienne. Oui, je sais bien, mais c'est du pratique, là, c'est du pratique. J'aime pas de réfléchir là-dessus. Bon. C'est pour ça que c'est pas si commode que ça d'être chrétien. Aujourd'hui, et développer notre intelligence par amour pour le Christ. Développer notre intelligence pour rechercher la vérité philosophique. Alors, le concret dans une philosophie réaliste, peut-on parler du concret spirituel? Le concret spirituel. Si vous réfléchissez sur l'amour que vous avez pour un de vos frères, une de vos sœurs, est-ce que l'amour est du concret ? C'est du singulier. Alors tout dépend. Si vous identifiez concret et quelque chose de sensible, alors évidemment, l'amour spirituel est au-delà du sensible. Si vous dites concret ce qui existe, l'amour spirituel existe dans votre volonté. Je veux aimer. C'est un acte concret. Alors, on dira plutôt que concret, on dira, ceci existe, et ça existe de manière singulière. C'est une réalité. Alors, je continue maintenant. maintenant. Je vous dis en terminant, partir de l'expérience et redécouvrir cette expérience et comprendre qu'au point de vue naturel, je n'ai pas l'expérience directe de Dieu. Quand vous êtes en face d'un athée, voyez, si vous dites que vous avez une expérience naturelle de Dieu, il vous dira, mais vous imaginez, quoi. Vous vivez dans l'imagination. Ma foi, et c'est la grandeur de la foi, j'adhère directement à Dieu, et Dieu qui me parle. Dieu qui m'éclaire. Dieu qui se révèle à moi. C'est ça la foi. Mais mon intelligence, qui se sert des sens, qui se sert de l'imagination, qui a un contact avec les réalités concrètes, en disant ces réalités existent. L'intelligence humaine ne peut pas avoir l'expérience directe de Dieu. Tous les hommes seraient croyants. On n'a pas d'expérience directe de Dieu au point de vue philosophique, au point de vue humain. On découvre l'existence de Dieu par raisonnement. On passe du visible à l'invisible. Alors on passe du visible à l'invisible par deux voies. La voie inductive qui permet l'analyse et un raisonnement qui part du visible et qui peut, en se servant de principes propres, aboutir à une réalité qui existe nécessairement et que je ne vois pas. C'est ce qu'on appelle une démonstration a posteriori, à partir des effets. C'est vrai qu'il y a deux passages du visible à l'invisible. Alors il faut comprendre que la philosophie ne se contente pas de décrire l'expérience qu'on a, l'expérience intérieure, l'expérience extérieure. Elle essaie d'analyser. C'est là où il y a quelque chose de commun avec la science. On analyse. On analyse en interrogeant. Toute analyse se fait en interrogeant, puisque par l'interrogation, votre intelligence est en état d'alerte et de recherche. Je cherche quelque chose. Quand vous demandez à un étudiant qui fait une thèse en biologie, on lui demande « qu'est-ce que vous cherchez ?» Je cherche cela, le lien qui existe entre telle chose et telle autre chose, tel événement, tel fait et tel autre fait. Il doit y avoir un lien, je ne le vois pas. Un lien de cause à effet, un lien d'antécédent et de conséquent, je ne sais pas, je cherche. L'interrogation vous met dans un état de recherche. Et c'est très important au plan philosophique, l'interrogation. Merleau-Ponty, donc un philosophe qui est mort il n'y a pas très longtemps, Merleau-Ponty, qui était très dans la phénoménologie, dit cette parole intéressante. L'idéaliste n'interroge plus. C'est vrai, ce sont les enfants qui interrogent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils interrogent tellement que leur mère, agacée, elle dit « Tais-toi, tu verras plus tard ». C'était le gosse, on a raconté, réel, le gosse de 4 ans, qui pose la question à sa mère quand elle vient lui apporter la soupe. Maman, qu'est-ce que c'est que l'éternité ? Alors Seigneur, de vous chercher, réfléchir. Mange ta soupe avant de découvrir ce que c'est que l'éternité. Autrement, elle sera froide. Ça te fait comprendre ce que c'est que l'éternité. Comprenez. Et le gosse continue. Alors la mère voit que c'est pas la peine. Elle s'en va. Puis elle revient au bout de 5 minutes. Et le gosse prenait sa soupe. Alors, elle aurait mieux fait peut-être rien dire. Mais elle dit, alors tu as trouvé ? Maman, l'éternité, il prend son rond de serviette, c'est ça. Mais le symbole de l'éternité, ça a toujours été le cercle. Parce que le point de départ et le terme se rejoignent. L'alpha et l'oméga ne font qu'un. C'est ça l'éternité. C'est pas mal pour un gosse de 4 ans. De redécouvrir ça. Oui, c'est là, on voit, que l'intelligence cherche. Si ce n'est pas posé, qu'est-ce que c'est que l'éternité ? Il n'a jamais trouvé ça. Alors, il y a l'imagination qui s'y mêle, c'est sûr. La connaissance symbolique est toujours une connaissance première et dernière. Toujours. Les mystiques se servent d'une connaissance symbolique. Les poètes se servent d'une connaissance symbolique. Les enfants se servent d'une connaissance symbolique. Et la philosophie dépasse le symbole pour découvrir ce qui est. Et pas rester uniquement dans un symbolisme, dans des signes, si beaux qu'ils soient. Le philosophe ne peut pas se contenter de dire l'éternité c'est rond. Il ne peut pas se contenter. Mais ça a été la première manière de comprendre ce que c'est que l'éternité, la vérité toute ronde. C'est toujours très intéressant, vous voyez. Le philosophe s'intéresse à ça. De voir les premières approches. Mais on doit analyser. Et c'est par l'interrogation qu'on analyse. Alors, le génie d'Aristote a été de découvrir quelles sont les grandes interrogations. Socrate, c'est le philosophe de l'interrogation, de la naissance de l'interrogation. Aristote a réfléchi sur l'interrogation. Quelles sont les grandes interrogations qui commandent toute la recherche et toute analyse. Et ça, c'est très intéressant d'essayer de réfléchir sur les grandes interrogations. Parce que c'est les grandes interrogations qui vous donneront les lignes de recherche. Alors il faut les savoir, je vous les donne. Mais il faudrait, pour que ce soit, parce que si je vous les donne, c'est le fruit de ma réflexion. C'est le fruit de la réflexion d'Aristote. Alors on peut répéter, comme le perroquet. Répéter dans les langues multiples, pas nécessairement en grec. On peut répéter. Il faut comprendre comment ces diverses interrogations nous montrent le conditionnement de notre intelligence humaine qui interroge. Pour savoir s'il y en a d'autres. Ce qui est très curieux, c'est que depuis Aristote, personne n'en a découvert d'autres. Personne. C'est étonnant. Avant Aristote, ça existe. Mais Aristote les a unis. Alors, je voulais, en quoi ? Qu'est-ce ? D'où ? Origine. En vue de quoi ? Il y a un ordre qui n'est pas toujours le même. C'est ça qui est intéressant. C'est pas une méthode. Il y a un ordre dans ces diverses interrogations. On verra. Puis une cinquième sur le modèle de quoi? Ça, c'est pour la philosophie de l'art. Sur le modèle de quoi? En quoi nous fait découvrir ce qu'on appelle la cause matérielle? Qu'est-ce la cause formelle? C'est-à-dire, il faudrait dire la cause selon la matière, la cause selon la forme. Si on était tout à fait correct. Parce que dire cause matérielle et cause formelle, ça c'est la scolastique. Vous voyez la différence? Alors on dit la cause selon la matière. La matière joue un rôle de cause matérielle. La cause selon la forme. La cause selon l'origine. C'est la cause efficiente. Et puis, en vue de quoi ? Et sur le modèle de quoi? La cause exemplaire. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant à voir et à essayer de saisir. Comment notre intelligence, dans ce qu'elle a de tout à fait radical, pour saisir les choses dans ce qu'elles sont de plus profond, interroge. Le gosse qui, la première fois, voit le TGV, j'ai vu ça et j'ai entendu ça, au Creusot, je prenais le train là, puis il y avait une mère, il y avait un petit gosse, c'est tout à fait au début, pour arriver, « Oh maman, qu'est-ce que c'est ?» Et la mère, pour toute explication, « TGV !» Vous comprenez que ça fait comprendre aux gosses tout. TGV. Qu'est-ce que c'est que TGV, maman? Ah, tu verras. Pas d'explication. C'est terrible. Les grandes personnes sont des étés noirs. Ils sont agacés devant les interrogations. Alors que l'interrogation, c'est l'intelligence qui vit. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à vos interrogations. Toutes vos interrogations, il faut les écrire. Si vous voulez progresser, quand vous interrogez, vous voulez aller plus loin. Vous ne vous contentez pas du fait. Et vous voulez comprendre. Et il y a 5 manières de diviser. L'intelligence touche la réalité selon 5 manières. Alors, si je creuse en critique, je verrai que les plis de l'intelligence me sont donnés par l'expérience. Et il y a 5 types d'expérience, puisque j'ai les 5 sens. Je contacte le réel en le voyant, en le touchant, en le sentant. C'est sûr. Et donc, il y a un lien entre les 5 sens liés à l'intelligence et les interrogations. Et tant que vous n'avez pas vu ça, vous répétez. Quand vous dites, ah tiens, oui, le conditionnement de ma vie intellectuelle, c'est par l'expérience. J'ai une expérience directe, je touche, je vois, je sens, je goûte. J'entends. C'est quand même curieux. Alors, mon intelligence, c'est l'intelligence d'un homme dans un corps. Et ce corps, de fait, il y a 5 sens. Pourquoi 5 sens? Pourquoi j'en ai 5, pas 6? Alors, ça, on dira le toucher intérieur, mais c'est le toucher. Je suis myope, mais c'est très bien, conditionnement. Mais c'est toujours la vue. C'est curieux, cinq sens. Pourquoi cinq sens? Ah ça, vous pouvez vous poser la question, hein. L'amour, pourquoi cinq sens? Le philosophe doit se poser la question. Alors, vous ne pouvez pas dire, les cinq sens, ah c'est pour les cinq interrogations. Ah non, c'est l'inverse. Je ne pourrais donner au terme qu'une réponse de sagesse. Je constate. Et je vois que les animaux, ce qui est très curieux, que les animaux ont quelquefois une vision beaucoup plus aiguë que la mienne. L'aigle, l'odorat du chien. Soyez chien, et vous cherchez comme ça votre vie. Et ainsi de suite, il y a quelque chose de propre à l'homme, le toucher. Prenez la patte de l'ours, hein, comme c'est délicat comme toucher. Ou la patte de l'éléphant, c'est encore mieux. Faut faire attention, tu vois, parce que ce sont des risques d'être écrasé. L'homme, c'est l'intelligence liée à la main, au toucher. Donc il y a un lien entre le toucher et l'intelligence. Pour le réalisme, ceci est. La vision, oui, c'est lointain. Je peux voir des choses et je ne sais pas, ça existe, c'est imaginatif. Mais si ça se répète tout le temps, je peux dire que je vois la lune et je ne l'ai pas touchée. Sauf si je suis cosmonaute. Et le jour où les cosmonautes ont été dans la Lune, l'humanité a eu un toucher nouveau et un regard nouveau. J'ai vu ma petite planète de la Lune. Pas si mal. Je suis sorti, j'ai vu la petite planète. Elle était toute bleue. Et c'est le caractère particulier de la planète. Ah, alors l'homme, c'est le toucher et la planète, c'est l'eau. C'est encore le toucher, l'eau. Parce que c'est la vie. Alors voyez, pourquoi les cinq sens? Pour connaître l'homme, connaître l'univers. Il y a cinq manières de connaître l'univers. Et il y a cinq types d'interrogations. Et le propre de la connaissance philosophique, c'est justement de se servir de ces cinq interrogations. Alors que les sciences modernes ne se servent pas de ces cinq interrogations. Ah ! On supprimera la causalité. Depuis très longtemps, depuis le XIVe siècle. On gardera la causalité efficiente. Oh, celle-là ! L'efficacité, la causalité matérielle, ou ça, on les mettra ensemble. Alors, ce sera la causalité exemplaire qui prendra la place de la finalité. Là, vous avez tout un ordre différent de la recherche. Alors, il faut redécouvrir les cinq manières d'être en contact avec l'univers. Et avec mon corps, et avec moi-même. C'est ça que le philosophe va faire. C'est ça la grande découverte de la philosophie. C'est cela que le génie d'Aristote a découvert. Et c'est ça que saint Thomas a voulu redécouvrir. Et c'est pour ça qu'il est revenu à Aristote. Parce que Avicenne voyait la finalité en dépendance de la cause exemplaire. Et ça a tracassé Thomas d'Aquin. Et il a vu la cause exemplaire en dépendance de la cause efficiente. Et la cause efficiente est devenue première. Pour des quantités de personnes, la causalité efficiente est première. Comment réaliser ça? Comment réaliser ça? C'est le comment. Quelqu'un qui était habitué à l'ONU d'étudier les différentes manières d'interroger selon les divers pays. Et c'était très intéressant. Je disais, il n'y a que l'Inde qui continue d'interroger toujours sur la finalité. Partout ailleurs, c'est comment. Comment réaliser ça? Comment faire cela? Et non plus la finalité. Comment? C'est les causes efficientes. Mais comment réaliser ça? Mais c'est le point de vue du travail. C'est le point de vue de faire quelque chose. Donc, l'intelligence interroge pour analyser et connaître la réalité dans ce qu'elle a de plus foncier. Et une fois qu'elle connaît, elle peut réaliser ou on peut imiter, on peut perfectionner. Et toute la connaissance alors artistique qui va naître à partir de là. Alors maintenant, après avoir dit rapidement, vous comprenez, que toute la philosophie reposait sur le jugement d'existence. Je ne fais pas la philosophie. Possible. Faire la philosophie des possibles, ce sont les idéologies. Les idéologies sont dans les réalités possibles. Comme les mathématiques. C'est tout ce qui est possible. Tandis que le philosophe regarde ce qui est. Donc l'homme. Et ramène tout à ce qui est l'homme. Les possibles, il dit très bien, allez-y. Mais ce n'est pas mon domaine. Le domaine du philosophe, c'est de savoir, c'est connaître l'homme dans toutes ses dimensions. C'est ça qui me semble caractériser la connaissance philosophique. Le philosophe doit pouvoir, à chaque moment de ses démarches, dire « je recherche dans l'homme et pour l'homme telle chose ». On va essayer de voir ça maintenant. Quel est le point de départ de la philosophie? Alors, le propre du sage, c'est d'ordonner. Et je peux tout de suite préciser qu'il y a deux ordres qu'il ne faut jamais oublier. Il y a un ordre de recherche, un ordre génétique. Un ordre de recherche. L'ordre de recherche, on part de l'imparfait vers le parfait. L'ordre du devenir. Toute recherche implique un devenir. Toute recherche implique un ordre génétique. Et puis, il y a l'ordre de perfection. C'est très très important de distinguer ces deux ordres. L'ordre de recherche et l'ordre génétique. Ça aussi, c'est une invention d'Aristote. Ou plus exactement, une découverte. Mon intelligence est une intelligence qui implique une recherche. Je deviens intelligent. C'était le père m'en donné quand j'ai commencé ma philosophie. Qui nous faisait ce qu'on appelait la goutte de lait. Et le père Modonné, âgé, qui avait dit, c'était un très bon historien du Moyen-Âge, il a fait beaucoup de choses pour le Moyen-Âge, c'était un bourguignon, un bon vivant de Bourgogne. Merveilleux. Il faisait un cours de méthodologie historique, puisque c'était sa spécialité. Et il avait écrit quelque chose sur la méthodologie historique. On a vu trois lignes pendant toute l'année, parce qu'il nous racontait des histoires. Comme bon historien, il enlevait ses lunettes, et puis il commençait à nous raconter. Mes chers petits frères, vous êtes tous intelligents. Ça se retient. Vous êtes tous intelligents. Mais vous allez voir, vous allez avoir des professeurs qui auront le même type d'intelligence que vous. Et ces professeurs diront, j'ai un génie dans ma classe. Vous allez avoir des professeurs qui ont un type d'intelligence totalement différent de vous. J'ai un imbécile dans ma classe. Alors ne vous inquiétez pas. Vous avez des professeurs qui vous comprendront, des professeurs qui vous comprendront très difficilement. Dites-vous, pas le même genre d'intelligence. C'est très astucieux, ça. Notre intelligence se développe par le toucher, par le regard, la vision, par l'ouïe. Et on a des formes d'intelligence différentes et des formes d'imagination différentes. Ça, c'est très vrai. Et les uns sont très sensibles à l'ordre génétique. Les autres sont très sensibles à l'ordre de perfection. Voyez, qu'est-ce qui est premier dans ma connaissance génétiquement? Qu'est-ce qui est premier? Je touche. Quelle est la première chose que vous avez touchée dans votre vie? Vous vous rappelez bien, quoi, dans votre jeunesse, la première chose que vous avez connue, la première connaissance qu'on a, je crois que c'est le toucher. Je connaissais un grand japonais artiste merveilleux qui avait épousé une française aussi artiste. Et le petit enfant était le fruit des deux. C'était un petit génie, d'après les parents. C'est une petite fille merveilleuse, gentille tout plein, artiste, qui se réveillait la nuit pour faire des décorations. À 5 ans, elle faisait des choses étonnantes, du reste. J'ai vu ça, de ce temps-là. Et le père l'élevait en disant, « Ah, il faut que son toucher soit parfait, donc elle ne touchera jamais des matières... » mauvaise, inventée par l'homme. Il faut qu'elle touche toujours des matières vraies. Pas le nylon, surtout pas. Qu'elle boive dans des verres de cristal. Même si elle en casse beaucoup, tant pis. Le toucher, pour que le toucher reste qualitatif. Alors c'est vrai, les premières choses que vous avez touchées, c'est la nourriture. L'enfant avec sa mère. Le biberon. Ah, c'est déjà un peu factice, hein. Normalement, ça devrait être l'enfant et la mère. Le sein maternel. C'est le toucher, ce qui est premier. Et on touche une réalité concrète. La première nourriture qu'on a pris, dans le temps, c'était le lait. Hein. Maintenant, je ne sais plus, parce que je ne suis pas ça de près. Mais c'était le lait. Puis après, petit à petit, on a pris des choses analogues au lait, qui se touchaient, puis c'est tout. Et puis après, on est arrivé à prendre d'autres choses. Puis il y a eu la vision. Et quand l'enfant crie parce qu'il a faim, quel est le premier transfert? C'est que la mère, parce que le biberon n'était pas chaud, à l'heure exacte, l'enfant crie. On agite une petite sonnette. Tiens, l'enfant entend. Il oublie. Premier transfert. transfert. Ça ne dure pas très longtemps. Il commence à crier. Il y aura une autre invention, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est très curieux. Hors de génétique. Les psychologues sont terriblement sensibles à leur génétique. Ils voudraient le reconstruire. Ils ne pourront pas. D'avance, je dis philosophiquement, ils ne peuvent pas. Parce qu'il y aura des creux. Mais il y a quand même quelque chose qui demeure, c'est que tout ce que je touche, tout ce que je vois, implique une réalité qui est mue. Tout le visible, il est mu. Toutes les réalités, je ne touche pas, comprenez bien, je ne touche pas avec mes sens. L'être, mais c'est le devenir. Mon intelligence est capable, au-delà de ce qui est mu, de dire ceci est. Mais faut le temps. Le gosse ne fait pas ça. À quel moment avez-vous fait cette distinction entre le devenir et l'être? Moi, j'ai posé la question à des psychanalystes qui m'avaient demandé de venir discuter avec eux. Ça m'a intéressé. J'aurais posé une fois la question, est-ce que psychanalytiquement, vous arrivez à découvrir ce grand moment extraordinaire, le passage du devenir à l'être? Eux-mêmes n'y avaient pas pensé. Je dis quand même, c'est élémentaire. Ah, tu vois, c'est peut-être vrai. Voyez, toucher l'être, jugement d'existence, c'est l'intelligence. Ici, c'est les sensations. C'est quand même intéressant d'arriver à distinguer les deux. Donc, l'ordre génétique, on part toujours du devenir. Dans l'ordre de perfection, quelle est la réalité suprême? Comment l'intelligence est capable d'atteindre Dieu? Donc, selon l'ordre de perfection, Dieu est premier. Selon l'ordre génétique, le mouvement, ce qui est mu, est premier. Alors, si vous confondez les deux, confondez l'ordre génétique et l'ordre de perfection, vous arriverez à cette erreur terrible qu'on appelle l'ontologisme. Vous croyez que tout ce que vous causez, l'ontologisme, c'est ontos, l'être, c'est d'identifier ce que vous pensez et la réalité. Vous identifiez la connaissance scientifique et la réalité. C'est de l'ontologisme. La connaissance scientifique dit quelque chose de réel, mais ne dit pas la réalité. Il y a une différence entre les deux. On confond l'ordre génétique et l'ordre de perfection. Alors, ce qu'il faut, c'est maintenir tout le temps la distinction de ces deux ordres. Alors, dans un ordre génétique, qu'est-ce qui est premier au point de vue connaissance? Quelle est l'expérience la plus radicale de votre vie? C'est le jeu, le travail. Je crois. Très vite, on a fait l'expérience du travail. Et avant, c'était l'école maternelle, on faisait des jeux. Occupé. Il faut s'occuper. Donc il faut jouer. Quand on joue, on s'occupe. Quand on travaille, on est sérieux. Mais on est quelquefois très sérieux dans le jeu, plus que dans le travail. Ça dépend des mentalités, ça. Est-ce qu'on joue pour travailler ou est-ce qu'on travaille pour jouer? Ça fait deux spiritualités. Et vous voyez, c'est l'ordre génétique et l'ordre de perfection. C'est des petites clés, ça. des passe-partout merveilleux. On peut tout le temps trouver ça. Selon l'ordre de perfection, qu'est-ce qui est le premier? La métaphysique. C'est vrai, c'est ce qu'il y a d'ultime dans la recherche. Et je commence par quelle connaissance de Dieu j'ai. C'est l'ordre de perfection. Et dans l'ontologisme, on confond l'ordre de perfection et l'ordre réel. Et donc, on dira, la première chose à savoir, c'est la connaissance de Dieu. Si je distingue les deux ordres, je dis non. Il faut d'abord connaître ce que c'est que l'homme. Parce que c'est en connaissant l'homme que je peux découvrir Dieu. Dans une philosophie réaliste. L'ordre génétique de la philosophie. Et puis ensuite, on regardera l'ordre de perfection. En découvrant l'ordre génétique, je découvrirai progressivement l'ordre de perfection.